Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Women in Copernicus.
Women in Copernicus est une initiative née en 2020 sous l'impulsion de 7 femmes actives dans les programmes de l'observation de la Terre de l'Union européenne.
Nous partageons la volonté de donner la parole aux femmes, d'être plus visibles et mieux reconnues dans un domaine où nous sommes souvent peu représentées.
Nous avons voulu, Roberta, Gwenaëlle, Guglielmo et Marie, vous raconter des histoires des femmes, ici, en Bretagne.
Avec elles, nous vous ferons découvrir un domaine qui nous passionne, autour d'images satellitaires, de technologies, de compétences et bien sûr, de femmes.
Il y a des réactions qui sont un peu épidermiques, mais on sent qu'elles s'atténuent un petit peu avec le temps. En un an déjà, je trouve qu'elles sont moins fortes. Et puis ça rentre progressivement dans les mœurs. Et puis je pense qu'on se rend compte qu'on ne peut plus passer outre ces questions-là. Donc moi, je suis très confiante.
Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez peut-être reconnu la voix de Anjulia Rollet, maîtresse de conférence à l'Université de Rennes 2 et spécialiste en hydrogéomorphologie. Et aussi référent parité au sein du laboratoire de géographie physique et l'ETG. Elle va rester avec nous pour ce dernier épisode, mais aujourd'hui, on va s'éloigner de son rôle officiel pour prendre un peu de recul sur les questions de genre dans le milieu professionnel et personnel. Et quand on parle de perméabilité entre la vie pro et la vie perso, pour Anjulia, ça commence par une anecdote assez amusante.
Pour être complètement honnête, c'est une soirée où j'avais trop bu avec des collègues qui dormaient à la maison. J'ai dit banco, demain, hop, j'envoie un mail à ma directrice d'unité pour dire que je suis référente parité. Enfin, je trouve que c'est assez signifiant quand même, c'est qu'il m'a fallu un coup dans le nez pour dépasser les craintes que j'avais inhérentes à cette fonction-là. Et c'est marrant, une des premières réflexions d'une de mes collègues m'a dit « Oh là là, mais pourquoi t'as fait ça? Tu vas t'en prendre plein la tête. » Et en fait, pas du tout.
Évidemment, une soirée entre potes autour d'une bouteille de vin ne peut pas être la seule raison pour se lancer dans ces rôles. Ça a été le déclencheur, certes, mais tout au long de sa carrière, il y a eu des épisodes qui ont contribué à la sensibiliser aux questions de genre et à construire son identité de femme chercheuse.
C'est un travail qui est personnel, mais qui dépend aussi beaucoup de l'ambiance dans laquelle on est. C'est pas forcément... il se trouve que c'est souvent ce qu'on ressent, c'est une place inférieure, hein, mais on n'est pas traité exactement de la même façon. Quand on est une femme, soit parce que les autres, on sent qu'ils osent pas, ils sont sur la réserve, ou au contraire, ils se permettent des choses qui sont un peu particulières, donc on est à part. Donc c'est une question qui est personnelle, mais je pense que c'est une question d'ambiance aussi, ambiance d'équipe, et ça dépend de son environnement. Et donc c'est une question qui est complexe, parce que ça dépend de la sphère de l'intime, de son passif, de comment on s'est construit, de ce à quoi on a été confronté. Moi, typiquement, j'avais jamais été confrontée avant d'être en poste à ces questions-là. En tant que doctorante, j'avais été, je me rends compte, extrêmement protégée. J'ai jamais eu de ce type de discussion, d'allusion ou autre avec mon directeur de thèse. Ça m'était complètement étranger. Donc j'ai découvert ça un petit peu plus tard. Et puis, ça dépend aussi des interactions qu'on a avec des personnes qui vont appuyer plus ou moins sur ces traits qui font mal, sur lesquels on est plus ou moins sensible, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très compliqué, parce qu'une même personne, enfin, deux personnes différentes exposées aux mêmes éléments ne vont pas avoir la même perception, la même sensibilité, ne vont pas le ressentir de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est très, très compliqué d'avoir des règles générales d'objectivation et de dire ça, on peut, ça, on ne peut pas. Alors, on peut sur des choses évidentes, mais il y a des choses qui laissent un peu... c'est plutôt au libre arbitre de chacun. Et donc, ça rend la question particulièrement complexe.
Tout au long du podcast, nous avons beaucoup parlé de l'éducation et de l'importance de la déconstruction comme moyen personnel de travailler sur les questions de genre. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la sphère professionnelle ? Naïvement, nous pourrions nous dire que oui, les questions de genre sont sociétales, mais qu'il y a plus de travail à faire dans la sphère personnelle que professionnelle. Mais où situer la limite ?
C'est qu'on fait une partition extrêmement imperméable entre le professionnel et le personnel. Or, c'est extrêmement perméable. Moi, le nombre de soucis que j'ai résolus dans le cadre de mon travail en chaussant des baskets, en allant courir, par exemple, on se dit « Oh là là, je travaille pas, je perds mon temps, je m'occupe de moi, etc. » Mais en fait, non, on résout tout. Et on résout tout parce qu'en se soignant personnellement, eh bien, on devient un meilleur professionnel. Moi, je vois, hein, dans ma pratique de l'enseignement, par exemple, bah, si je ne prends pas un minimum soin de moi, eh ben, je suis beaucoup moins réceptive aux étudiants, par exemple. Ou je serai moins investie dans mes cours psychologiquement parce que je serai plus fatiguée, parce que je prendrai moins de temps, parce que je serai dans la course. Et dans les pratiques d'enseignement, bah, je me rends compte. Quand je suis dans ces logiques-là, bah, ça passe moins bien en amphi. Donc déjà, il y a cette question de perméabilité, etc. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce que c'est qu'être un bon professionnel ? Et être un bon professionnel, eh ben, je pense que si on était tous des bons professionnels de la même façon, ça serait un véritable échec collectif. Parce qu'être un bon professionnel, il y a 15 000 façons d'être bon professionnel. Et je trouve que le monde de l'enseignement et de la recherche, il est extrêmement révélateur là-dessus. Pourquoi est-ce qu'une équipe fonctionne bien ? C'est parce qu'il y en a qui seront plutôt bons sur l'enseignement. Et comme ils seront plutôt bons sur l'enseignement, eh bien, peut-être qu'ils répondront à certaines demandes des étudiants, qu'un gars qui sera hyper performant en recherche ben, laissera complètement de côté, par exemple. Et donc, il y a une complémentarité professionnelle à avoir. Et cette complémentarité professionnelle, ça permet justement à tout le monde de trouver sa place. C'est un peu comme une équipe de rugby, quoi. On a besoin de grands avec des grandes jambes qui courent très vite derrière, on a besoin de petits robustes à l'avant, et c'est cette complémentarité qui permet de faire avancer un collectif. Et ça, je trouve que dans l'évolution du monde de la recherche, on mise de plus en plus sur l'individu, on a des évaluations de plus en plus individuelles, etc. Où on cherche, alors je ne vais pas mettre ma casquette rouge, etc., mais on cherche à briser les logiques collectives, hein, parce que ça permet de encore mieux dominer la profession, de faire passer des réformes, etc., hein, de créer un petit peu de distension au sein d'un corps, ça c'est bien connu, hein, ces logiques de gestion-là. Donc on casse le collectif, on privilégie l'individuel, on donne de plus en plus de gratification individuelle pour que chaque individu s'élève, mais c'est au détriment du collectif. Et donc, ce qu'on appelle maintenant un bon chercheur, bah, je suis désolée, si on n'avait que des excellents chercheurs dans une équipe, je peux vous jurer que ce serait la catastrophe.
Les questions de genre s'en mêlent avec des autres. Par exemple, dans le monde académique, l'évaluation de la recherche et la mise en compétition des chercheurs et chercheuses. Certes, ces thèmes peuvent sembler éloignés, mais en réalité, réfléchir à un nouveau modèle de recherche fondé sur la coopération plutôt que sur la compétition peut aller de pair avec la réflexion sur des environnements de recherche plus inclusifs. Mais comment cette ambiance de travail basée sur la performance a-t-elle pu affecter sa vie personnelle ?
Mes enfants étant petits, je me suis mise à leur en vouloir, par exemple, de me prendre du temps, de m'obliger à me déconnecter du travail intellectuellement, etc. Et ça, c'est des signaux d'alerte qui font tout de suite dire « Non, mais là, il y a un problème. Là, il y a un souci. » Mon conjoint travaillait dans une autre ville. Donc, en plus, je me retrouvais un petit peu à gérer la moitié de la semaine seule mes enfants, en plus de mon travail. Et oui, ça rentrait un peu et ça fait qu'on est toujours dans une phase de culpabilité. On pense au travail quand on est avec les enfants et puis la phase de culpabilité où on n'a pas le cerveau 100% disponible quand on est au travail parce qu'on a toujours en arrière-plan ce qu'on appelle la charge mentale, des prises de rendez-vous médicaux, surtout avec des enfants en bas âge, ça se multiplie, hein. Mais voilà, des problèmes bassement matériels ou d'éducation et cette interaction elle est extrêmement compliquée, extrêmement lourde à gérer. Et je l'ai assez mal géré. Moi, je me rends compte hein, que j'aimerais bien, à la limite, revivre la petite enfance de mes enfants, parce que je pense que maintenant, avec au plus de maturité, je le vivrais beaucoup plus sereinement. Et donc, on est toujours dans cette tension, en fait, qui est difficilement gérable. Mais moi, je peux le dire, hein, moi, j'ai senti, par exemple, le besoin d'être accompagné psychologiquement par une psychologue, hein, de rentrer en analyse, pour essayer d'assumer ça. Parce qu'on se sent toujours mauvais. Mauvaise mère, mauvais chercheur.
Une des raisons pour lesquelles nous avons lancé ces podcasts est en fait de libérer la parole, de briser les tabous, pour entamer un dialogue sur nos histoires de vie, sur la façon de faire différemment. Et comme nous l'a dit Julia, l'un des moyens de libérer la parole est le soutien psychologique. Une autre consiste à aborder une à une des questions telles que précisément la maternité, comme cela ça se passe dans plusieurs domaines professionnels. Mais dans les discussions avec les collègues, est-ce que ces sujets sont-ils encore des tabous ? Est-ce qu'on arrive à en parler finalement ?
Entre femmes, je pense que c'est quelque chose qui se dit assez facile. Enfin, moi j'ai tendance à le dire assez facilement et Je pense que c'est pas si tabou que ça, parce que je trouve qu'on a quand même bien mis à mal la question de l'instinct maternel, de la maman parfaite, etc. Et je pense qu'on assume un peu plus d'être mauvaise mère, hein, sachant que c'est plutôt positif d'être mauvaise mère, parce que ça permet une meilleure construction des enfants. Hein. Si on leur oppose sans arrêt un modèle parfait, c'est pas non plus très bon. Donc ce côté assumé, bah, le fait de pas être la mère parfaite, de pas forcément avoir d'instinct maternel, moi c'est pas mon cas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on arrive à parler plus facilement. Ensuite, avec les hommes, c'est marrant, plus les hommes participent aux tâches collectives, moins c'est entendable pour eux. Parce qu'ils ont l'impression que la distinction entre l'investissement des femmes et l'investissement des hommes est en train d'être gommée. Et donc, moi, je vois, hein, y a plein d'hommes, quand je parle de cette histoire-là, ou de, ils disent, ouais, bah, nous aussi, on va faire des courses, nous aussi, on fait le repassage, nous aussi. Mais ce nous aussi, c'est une réaction pour éviter la mise en accusation, la critique, etc. Mais honnêtement, quiconque a déjà eu des enfants voit très bien vers qui se tourne le pédiatre quand il va parler du problème de l'enfant. Et bah, il va se tourner vers la mère, même si les deux parents sont présents. Vers qui est-ce qu'on appelle au niveau de l'école quand il faut aller chercher l'enfant malade, systématiquement, c'est le numéro de la maman. Et donc, en fait, la charge mentale, même si on essaye de la partager le plus possible, hein, eh ben, il y a des biais culturels extrêmement forts encore dans la société qui font que, malgré toute la bonne volonté des hommes, ça reste quand même encore franchement dissymétrique.
Si au niveau professionnel, ça peut être parfois compliqué de trouver sa place comme femme chercheuse, à un niveau personnel, on peut faire en sorte de partager la charge mentale, principalement portée par des femmes. On demande à Anne-Julia si elle s'est déjà sentie découragée ou qu'elle a eu l'envie de laisser tomber et continuer son chemin sans essayer de faire changer les choses.
Non, parce que moi j'y vois une question de survie en fait. Pour moi, l'action, c'est continuer à reconnaître qu'il y a un souci. Et si j'arrêtais l'action ou si je laissais filer, c'est comme si j'acceptais que ça ne soit pas un problème ou qu'il n'y ait plus de problème. Mais pour l'école, il y a des petits trucs tout simples. Hein. Le matin, je dis aux enfants, moi, si vous avez un souci, aujourd'hui, c'est votre père. Et donc, s'il y a un problème, eh ben, ils disent, c'est papa qu'il faut appeler, et hop. Et je pense que ça, je l'ai compris un petit peu tardivement, mais je pense que c'est possible dès la maternelle. Hein. C'est plein de petites choses comme ça. On se dit, mais c'est tout bête, pourquoi on n'y pense pas, quoi.
Anne-Julia nous parle aussi du rôle des hommes dans ces changements. Et elle nous parle de comment cela s'est passé avec son compagnon.
Ça a été une mise en accord. La plus grosse dispute, on en a suffisamment parlé pour que je puisse en parler publiquement, mais une des plus grosses disputes qu'on ait eues, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, c'était sur ces questions-là. Et c'était, notre enfant devait avoir 3 semaines. Et ben, il est rentré, ça faisait une semaine que j'étais en tête à tête avec mon bébé. Il est rentré, le premier truc qu'il a fait, il s'est mis dans le salon et il a regardé ses mails. Et moi, ça faisait une semaine que j'avais à peine le temps de me doucher, de faire un truc pour me faire plaisir, etc. Et que j'étais surtout en tête à tête avec ce bébé. Et il y a un moment, on a envie d'interagir avec ben, des adultes, des gens, enfin voilà. Et là, ben, j'ai explosé. Et j'ai dit, tu fermes cet ordinateur tout de suite ou je m'en vais. Ou plutôt, je te mets dehors. Ou je ne sais plus quel terme j'ai utilisé. Mais tout ça pour dire que c'est très, très important d'en parler. Parce que si on attend que l'autre voit, il est tellement enfermé dans ses schémas de fonctionnement, etc., qu'il ne voit pas nécessairement. Et ce n'est pas une mauvaise volonté. Et c'est pour ça, tu dis, c'est une bataille, etc. Mais si on ne fait pas cet effort de dialogue, c'est compliqué aussi pour l'autre de vraiment comprendre ce que ça représente. Et c'est juste la première fois où je l'ai laissé tout seul pendant une journée avec le bébé, que là, il a vraiment saisi ce que ça voulait dire de passer une heure avec un bébé. Et où là, ça a vraiment fait son chemin. Mais si, ça crée des tensions. Et pour les hommes, je pense que ce n'est pas simple non plus parce qu'on leur demande de prendre conscience, on leur demande de réaliser, on leur demande de s'investir, etc. Mais le changement, il est, je ne vais pas dire pauvre petite chose, mais il est un petit peu brutal. Et culturellement, faut les aider à se saisir de ces problématiques-là, etc. Parce qu'on en a si longtemps fait une des questions de femmes entre nous, et on a tendance à toujours lever un doigt accusateur, ce qui les exclut parfois un petit peu hein, des processus de discussion, etc. Et c'est pas simple. Pour eux non plus, je pense.
On voit bien ici que c'est pas seulement une question des femmes pour les femmes, ni une question binaire homme-femme, mais bien une question de modèle de société qui est en train de changer. Chaque personne peut jouer un rôle dans le maintien de la culture patriarcale au-delà de son genre et prendre conscience de ces systèmes et changer nos comportements pour en sortir peut bénéficier tout le monde, même pour les hommes qui, à première vue, en tirent de nombreux avantages par rapport aux femmes.
On voit que dans la construction de ces représentations-là, etc., il y avait des arguments religieux, politiques, etc., et qu'il y avait cette envie de domination et qu'on en garde les traits. Et que, donc, c'est bien des questions de choix de société, de construction de société qu'on est en train de re-questionner. Et on voit bien que dans justement toutes les questions de société, tout ça soulève, que ça aille du droit de la contraception au droit de choisir finalement le genre auquel on appartient, qui est quelque chose de très nouveau. Et je vois que ça choque même ma génération, ils ne comprennent pas, quoi. Alors on se moque de l'orthographe inclusive, etc. Mais c'est bien sociétal, cette question-là, et c'est bien collectivement qu'on trouvera les solutions. Et effectivement, moi je pense que répondre aux problèmes liés au sexisme, notamment dans le cadre du travail, c'est pour le bien-être de tous. Et c'est aussi autoriser les hommes à quitter ce schéma. Et quand je dis le re-questionner, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, parce que c'est avoir aussi plus de liberté, pouvoir se développer personnellement, etc. Parce que je pense qu'il n'était pas plus salutaire pour les hommes qu'une contrainte pour les femmes. Il n'y a pas de raison que ce soit des schémas si différents que ça. Donc non, c'est bien sociétal.
Et justement, impliquer les hommes dans des discussions liées au genre est un réel enjeu. Au sein des collectifs Women in Copernicus, au niveau européen, c'est même un véritable défi. On constate, lors des événements, majoritairement virtuels ces dernières années, que peu d'hommes se joignent aux discussions. On interroge alors sur la façon de faire participer les hommes, et en demandant à Julia si elle a des idées là-dessus, par exemple.
Je pense que justement, en appuyant sur le côté sociétal du problème, et pas en faire des questions de genre, et ne pas rentrer dans des logiques d'accusation, où les hommes vous et les femmes nous, parce que finalement, en plus, il y a autant de situations individuelles et personnelles qu'il y a d'individus et de personnes. Donc, parce que je me rends compte que d'avoir une position qui peut sembler assez radicale de prime abord, ça inhibe un petit peu les hommes, et ils se disent « je vais forcément dire une bêtise », et ça les empêche de rentrer dans la discussion. Donc, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, pour qu'ils se sentent concernés et autres, peut-être procéder par analogie, renversement de situation. Ça marche plutôt pas mal en disant, mais imagine si on avait dit ça de cette façon-là. Comment est-ce que toi, t'aurais réagi si déjà tu te sentais un peu fragilisé, pas beaucoup de confiance en toi, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce type d'analogie ou autre, ça fait prendre conscience que finalement, les hommes, ils sont un peu enfermés dans les mêmes problématiques que les femmes, mais il y a juste que du fait, du background historique, culturel et autres, il y a une exacerbation qui se fait sur les femmes. Mais que les logiques de malaise, elles sont assez communes dans leurs racines sur les hommes et les femmes. Et une fois qu'on fait prendre conscience de ça, je trouve que ça permet de dire aux hommes, écoute, si on règle ce problème-là, c'est le règle pour tout le monde. Et pour vous aussi. Et vous, ça vous libérera un petit peu comme ce qu'on vient de dire. Et là, ça permet de créer un peu de collectif derrière cette question-là. Ne pas dire, par exemple, que le monde de la recherche est hostile aux femmes, mais montrer que cette logique du bon chercheur, cette course permanente à l'échalote, etc., ça crée des tensions dans les équipes, ça crée du mal-être personnel, etc. Et que c'est que de façon collective qu'on pourra gérer cette question-là, et que par là même, ça répond à des soucis. En gros, c'est montrer les cas féminins comme étant des lanternes éclairantes de problématiques un petit peu qui peuvent paraître un peu plus sourdes. Et comme sur les femmes, c'est exacerbé, dire que on va prendre la question du genre pour traiter cette question-là, mais que ça va nous permettre de rentrer plus en profondeur sur des re-questionnements sociétaux, etc., qui seront bénéfiques à tous. Et ça, c'est une façon d'être plus inclusif que de partir vraiment du... Enfin, je sais pas, j'imagine, c'est un peu là où j'en suis dans mes réflexions. Après, la mise en pratique, j'y suis pas encore. Le problème, c'est plus on va vers une volonté de changement global et profonde, plus ça peut braquer aussi. Donc c'est la solution, elle est très compliquée à aller trouver.
Avec cette logique plus inclusive dont nous parle Anne-Julia, on touche à la notion d'intersectionnalité. Un concept avec lequel on décrit les logiques de domination comme plurielles et qui peuvent s'additionner et interagir entre elles. Il peut s'agir de discrimination liée au genre, la classe, la race, le handicap, l'orientation sexuelle, etc. En se croisant, elles peuvent se renforcer. Et cela nous parle, car on se rend vite compte que de parler seulement d'inégalité entre hommes et femmes est non seulement réducteur, mais aussi insuffisant pour faire évoluer notre monde professionnel vers un modèle plus inclusif.
Pour autant, l'angle discrimination liée au genre nous a permis de mettre en avant, dans les parcours des femmes intervenantes dans les podcasts, des trajectoires communes. Une manque de confiance, une nécessité de faire preuve de volonté pour ne pas abandonner. Mais ce manque de confiance ne peut pas être expliqué uniquement par son appartenance ou son identification à un genre. Comprendre les mécanismes qui portent à ces manques de confiance, ou au-delà de facteurs du genre, ça peut être un moyen de créer un débat constructif entre tous les acteurs et tous les actrices de la recherche.
Ce que je disais sur les hommes, etc., c'est que quand tu discutes avec des collègues masculins, bah, il faut aussi du courage. Et la question de l'estime de soi, on ne le manifeste pas de la même façon, on ne le compense pas de la même façon quand on est un homme et quand on est une femme. Quand on est une femme, on s'infériorise volontairement parce que culturellement, on est habitué à ça. Donc, c'est ça notre façon de protection. C'est-à-dire, bah, de toute façon, je suis moins forte, donc je m'aplatis. Et les hommes, c'est au contraire, je n'ai pas le droit de montrer que je suis faible, donc je vais faire plus de bruit. Mais très souvent, ben, à la base, c'est un problème d'estime de soi, c'est un problème de syndrome. Et quand on en discute de façon très honnête, ben, le syndrome de l'imposteur, il est présent dans les deux sexes. Et il peut être vécu de façon aussi violente. Alors, c'est ça là où je parlais d'exacerbation. Hein, c'est que nous, ben, il y a encore plus de choses qui nous poussent à ça et qui nous empêchent de bien le gérer. Mais c'est des choses qui sont communes à tous, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête avant de rentrer un petit peu dans ces questions-là, mais au final... Et c'est très important de l'avoir en tête, parce que très souvent, ce qui est opposé quand on rentre dans les débats et des discussions, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la journée de parité, c'est ressorti en disant « mais nous aussi, on a ça, mais nous aussi, on a le sentiment d'infériorité, mais nous aussi ». Et donc, le « nous aussi », ça fait que la question du sexisme ne devient plus un sujet spécifique. Si, ça reste quand même un sujet spécifique dans la mesure où toi aussi, mais moins. Et c'est ça qu'il faut gérer. Mais le vrai truc qu'il faudrait gérer, c'est pourquoi est-ce qu'on a tous un syndrome d'imposture ? Et c'est ça, à mon avis, le vrai sujet. C'est pourquoi est-ce qu'on est dans une société où on entretient des pratiques qui nous font si mal et qui détruisent un peu l'individu. Moi, je vois dès l'école primaire, mais moi, le fait d'avoir des enfants, mais ça met en exergue toutes ces logiques-là, mais c'est hallucinant. Moi, j'ai récupéré ma fille mardi matin. Elle était en crise de panique à l'école, où elle elle avait envie de vomir, etc. Et tout ça, c'est parce que il y avait une remplaçante. Elle me dit que c'était son épouvantard, cette remplaçante, pour reprendre le langage de Harry Potter. Et mais comment c'est possible qu'on puisse mettre face à des enfants, des gens qui, elle est assez sensible, hein, mais qui génèrent ce type de réaction-là ? Pourquoi on est dans une société où on fait de plus en plus de choix qui font de plus en plus de mal aux individus? C'est ça que je ne comprends pas. Et en prenant en plus l'hyper-individualisme et l'épanouissement personnel. C'est ça qui est complètement paradoxal. C'est fou.
Et c'est ça qui est difficile à changer aussi.
Ouais, mais je pense que c'est ça aussi qu'on peut aller questionner via la question du genre.
Après tout ça, après ces paradoxes dont elle parle, Anne-Julien nous parle aussi des questions que ça lui pose dans son secteur. Celui de la recherche et de l'enseignement universitaire.
Moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est de voir le nombre de doctorants qui se destinent à autre chose que le milieu de la recherche. Alors moi, il y avait déjà le questionnement de « tiens, on n'arrive pas à trouver de vivier local pour les postes d'ATER », donc c'est déjà sur le job d'enseignant-chercheur. Et après, quand tu regardes les demandes de qualification, donc pour accéder au poste de chercheur, enfin, t'as pas grand monde, quoi. Et là, tu te dis « c'est qu'on vend pas du rêve, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on vend pas du rêve ?» Parce que moi, je me suis déjà dit, si t'es mal dans ton travail, parce que des fois, ça a pu aller assez loin, je me suis dit, fais autre chose, quoi. Mais j'avais pas envie de faire autre chose, parce que quel travail te laisse, et c'est là tout le paradoxe, quel travail te laisse autant de latitude pour faire ce que tu veux faire? Et quand je te dis faire ce que tu veux faire, ça veut dire que tu peux du jour au lendemain faire un truc que derrière un ordi, que sur le terrain, qu'avec des étudiants, qu'avec de la recherche quasiment. Tu peux choisir, je veux dire, l'orientation que tu donnes à ton truc. T'imagines cette liberté-là ? Nulle part ailleurs, tu pourras l'avoir. Et tu peux faire varier ça dans ta carrière aussi, tu vois. Tu peux le moduler comme tu veux. C'est une liberté de fou, quoi. Mais pourquoi on n'en profite pas et pourquoi on ne le vit pas bien ? Ben, c'est ça, hein. Et un syndrome, c'est le moment de la correction de copie. Moi, ça me rend malade. À chaque fois, je bloque quasiment un mois au mois de janvier parce que la plupart de mes enseignements sont au premier semestre. Et quand je corrige mes copies, j'ai l'impression de perdre du temps. Eh, c'est mon taf de corriger des copies, on est d'accord. Je suis aussi enseignante. Et j'ai l'impression, donc je casse ça les week-ends, les soirées, parce que je veux pas prendre du temps. Mais on devient fou là, parce qu'il y a cette logique de performance, de course à la publication. Et pourquoi on a intégré ça? Je ne comprends pas. Et surtout qu'il a été démontré que les plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire, si on avait eu le modèle tel qu'on l'a actuellement, elles n'auraient jamais émergé en fait. C'est des erreurs, c'est des collaborations, c'est des temps de réflexion. Franchement, sur l'évolution des pratiques dans le monde de la recherche et l'hyper-individualisation, mais le mal que ça fait, ouais. Ne serait-ce que sur nos pratiques, sur nos résultats, etc. Mais c'est juste du délire, quoi. Et quand je vous disais qu'on a besoin de tout pour faire des enseignants-chercheurs, on a besoin de tout, mais aussi des ingés, du personnel d'accompagnement. Il faut savoir que dans les années 80, la France, elle était admirée parce qu'il y avait tout ce personnel de soutien à la recherche, etc., qui rendait la recherche française aussi performante. Et qu'est-ce qu'on a eu de cesse de nous vendre? Le modèle anglo-saxon. Où on parachute un ponte qui va monter son laboratoire avec un truc extrêmement hiérarchique et pyramidal et qui tue un peu les échanges entre les disciplines. On peut l'illustrer via le monde de la recherche, mais je trouve que c'est quelque chose que l'on retrouve sur plein de secteurs de notre société.
Quand on a commencé ce voyage en podcast, on s'est retrouvé dans un open space dans le labo de recherche, une fois que tout le monde avait laissé son bureau pour rentrer à la maison.
On avait envie de faire connaître le monde de l'observation de la Terre au-delà des murs qui nous entourent tous les jours, et on cherchait un moyen efficace de le faire.
Dans ces bureaux vides, devant un apéro et une page blanche sur laquelle écrire nos projets, on s'est rendu compte que dans cet espace, on partage beaucoup plus que des questions scientifiques. Dans cet open space, on partage nos ressentis, nos insécurités académiques et personnelles, et ce qui nous met en colère et au contraire, ce qui nous pousse à poursuivre dans le monde de l'observation de la Terre et dans nos travaux.
Souvent, nos discours nous portent sur comment les questions de genre façonnent nos relations professionnelles et personnelles.
Peut-être parce qu'on est jeune et le futur est incertain, peut-être pour toutes les crises environnementales et sociétales auxquelles on est confronté, derrière nos discours se cache un malaise subtil et généralisé.
Le soir où on s'est retrouvé devant une page blanche avec un projet à écrire, on s'est dit que l'observation de la Terre serait au centre de ce projet, mais qu'il fallait donner un aperçu de ce monde dans toutes ses facettes.
On a voulu donc raconter un bout de notre monde via la voix de 8 femmes, toutes engagées de manière ou d'une autre dans la construction d'un avenir meilleur, notamment face aux grands défis environnementaux.
Des femmes qui nous ont livré leur regard sur des énormes potentiels de ces domaines et aussi sur les défis imposés par les inégalités de genre. Mais la vie n'est pas faite de compartiments étanches. On est parti du monde pro, mais souvent on s'est retrouvé à parler de défis personnels. Exactement comme ça nous arrive dans l'open space duquel on est parti.
Et plus on a essayé de recentrer la conversation sur les aspects professionnels, plus on se rendait compte que ça n'aurait donné qu'une vision partielle de l'image générale. Ce sont elles, les 8 femmes qui sont intervenues dans ce podcast, qui nous ont forcé à voir qu'il n'y a pas qu'un seul prisme d'interprétation, mais que parler de genre, c'est aussi parler de conditions de travail, de santé mentale, de la pression sur le rôle de mère, etc.
On les remercie toutes pour leurs paroles, pour nous avoir permis de prendre recul et aussi pour nous avoir montré nos limites et ceux imposés par l'état de l'art. Par exemple, bien que nous avons essayé à éviter les pièges du binarisme, on s'est retrouvé à chaque fois à y tomber dedans, qu'est-ce qui soit pour la formatation de nos cerveaux ou pour des données qu'ils ont encore souvent trop basées sur une division binaire du genre.
Mais le fait est que le changement que nous vivons est énorme et il nous oblige à reprogrammer de nombreux schémas qui nous semblent évidents. Il faut du temps, de la pédagogie, mais surtout de l'enthousiasme. Et ce n'est certainement pas ce qui manque aux personnes investies dans Women in Copernicus.
Il faut maintenant se donner et demander les moyens, en temps, en argent et en énergie, de travailler collectivement sur les questions de genre. Parce qu'en fin de compte, la science et l'observation de la Terre ne seront pas des lieux inclusifs dans une société qui ne l'est pas. C'était Women in Copernicus Podcast, une émission conçue et réalisée par Roberta, Marie, Guglielmo et Gwenaël, en collaboration avec le collectif Women in Copernicus et la Radio CELAB. Musique et habillage sonore de Romain Leduc. Retrouvez les prochains épisodes tous les 15 jours, les mardis de ce même père, à 18h, sur CELAB, la radio sauvage.